Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 12 août 2014. Il est 6h temps universel. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, Anne.
Première conférence de presse hier à Bangui du nouveau Premier ministre centrafricain Mahamat Camoun.
Fausse alerte au Bénin sur les cas suspects de virus Ebola à Porto Novo et Tanguieta.
La Chine fait un don de matériel d'urgence aux trois pays les plus touchés par le virus, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria.
Le secrétaire d'État John Kerry fustige le manque de sérieux des belligérants sud-soudanais au pourparlers d'Addis Abeba.
Le président Barack Obama appelle à l'unité en Irak face à la menace djihadiste de l'État islamique.
Et le premier ministre irakien, Nouri al-Maliki, refuse d'accepter la nomination d'Haïdar al-Abadi à sa place.
Deux officiels de Human Rights Watch interdits d'entrer en Égypte en prélude à un rapport sur les tueries consécutives au renversement de Mohamed Morsi l'an dernier.
Et ne manquez pas les sports et la musique de Roger Muntou en fin d'émission. Pour l'instant, le journal. Le nouveau Premier ministre centrafricain, Mahamat Camoun, a fixé ses priorités comme étant la sécurité et la restauration de l'État et comme priorité immédiate la formation d'un gouvernement inclusif malgré l'opposition affichée par l'ex-rébellion Séléka. Il l'a dit lors d'une rencontre avec la presse, Félix Yepassi Zembro.
Nommé dimanche, le tout nouveau Premier ministre Mahamat Camoun a donné hier sa première conférence de presse à Bangui. Il a assuré qu'il va travailler en priorité à la sécurité, la restauration de l'autorité de l'État et à la réconciliation nationale. Autre dossier urgent, selon lui, l'aide humanitaire aux populations en détresse, la relance de l'économie et de l'administration et la préparation des élections générales de 2015. D'après le Premier ministre, les priorités restent les mêmes que celles de la feuille de route élaborée à N'Djamena en janvier 2014 lors d'un sommet des pays d'Afrique centrale qui avait abouti au départ du président Michel Dotodia. La coalition ex-Séléka qui avait porté Dotodia au pouvoir et qui contrôle une bonne partie du territoire refuse de travailler avec le Premier ministre Camoun et a interdit à ses membres toute entrée dans le futur gouvernement.
En Afrique de l'Ouest, la riposte contre l'épidémie d'Ebola continue. La Chine fait un don de matériel d'urgence aux trois pays les plus touchés par le virus. Lola Akomachri.
En Sierra Leone, 8 agents de santé chinois ont été placés en quarantaine. Les 7 médecins et un infirmier qui travaillent dans 2 hôpitaux dans l'est de la capitale seront maintenus en isolement pendant 21 jours. Lundi, le gouvernement chinois a affrété un avion transportant 80 tonnes de matériel médical et humanitaire à destination de la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, les trois pays les plus touchés par l'épidémie de fièvre Ebola. Le Nigeria a confirmé l'infection d'une infirmière par le virus, portant à 10 le nombre de cas avérés, dont 2 décès. Le président Goodluck Jonathan a lancé un appel de fonds international de près de 12 millions de dollars pour lutter contre la maladie.
Lutte contre le terrorisme, les États-Unis vont allouer 10 millions de dollars à la France dans le cadre de sa lutte antiterroriste dans le Sahel. Claire Morin-Gibourg.
C'est officiel, hier, le président américain Barack Obama a donné son accord pour une nouvelle aide militaire de 10 millions de dollars à la France dans le cadre de ses opérations antiterroristes dans le Sahel. Comme lors de l'opération Serval, les États-Unis n'enverront aucun soldat dans la zone, mais ils soutiendront l'armée française dans des opérations de transport aérien et de ravitaillement en vol. En janvier 2013, la France avait lancé l'opération Serval pour chasser les extrémistes islamistes qui occupaient le nord malien. Depuis le 1er août, les forces militaires françaises ont été redéployées dans le cadre de l'opération Barkhane. Cette nouvelle force, dont l'état-major est installé à N'Djamena, compte environ 3000 soldats dans 5 pays de la zone sahélo-saharienne.
La Tunisie s'oppose à toute intervention étrangère en Libye voisine, où des combats meurtriers entre milices rivales ont accentué le chaos. Lionel Gaïma.
Le Niger souhaitait une intervention en Libye. Mamadou Issoufou, le président nigérien, l'a dit récemment sur la Voix de l'Amérique.
Aujourd'hui, nous avons une situation extrêmement compliquée à Libye. Il faut neutraliser les milices qui s'affrontent, mettre en place une réconciliation, y compris avec les Kadhafistes, et enfin envoyer une force internationale, si les Libyens le souhaitent.
Mais le ministre tunisien des Affaires étrangères, Monghi Hamdi, refuse toute intervention étrangère et préfère une solution politique entre Libyens. La Tunisie a renforcé sa présence militaire à la frontière après avoir refusé d'accueillir en masse des réfugiés comme ce fut le cas en 2011 lors du renversement de Muammar Kadhafi. Pour sa part, l'Algérie a exclu toute intervention militaire, appelant également à une solution politique. Depuis la mi-juillet, la Libye est le théâtre d'affrontements meurtriers entre les milices rivales à Tripoli, la capitale, et à Benghazi, dans l'Est.
Kenneth Roth et Sarah Leah Whitson, deux membres de Human Rights Watch, ont dit hier avoir été interdits d'entrer en Égypte en prélude à la publication d'un rapport fort critique sur les tueries perpétrées par les forces de sécurité l'an dernier. 1150 personnes ont été tuées lors des manifestations contre le renversement du président islamiste Mohamed Morsi par l'armée, dirigée alors par Abdel Fattah al-Sissi, élu depuis président.
Le secrétaire d'État américain a vivement critiqué les factions en conflit au Soudan du Sud après qu'elles eurent manqué le délai fixé pour la formation d'un gouvernement de transition. Pour John Kerry, il s'agit d'une insulte aux citoyens du pays.
Le président de la commission électorale en RDC, Apollinaire Malumalu, était entendu par la justice ce lundi à Kinshasa. Une plainte des partis d'opposition datée du 25 juin accusait l'abbé Malumalu de délit d'initié pour violation de la loi électorale qui exige que les agents responsables de la CENI soient engagés sur appel d'offres. Écoutons l'abbé Malumalu.
Ça n'avait rien à faire à une gravité qui amènera à l'arrestation parce que, en fait, je suis venu plutôt éclairer le procureur général de la République sur ce dont il avait besoin. Et j'ai rencontré un inspecteur judiciaire du parquet général de la République, mais je voudrais rassurer tout le monde que c'est une procédure normale qu'il ne faut ni dramatiser ni transformer. Je vais vaquer à mes occupations. D'ailleurs, je me prépare à aller à Matadi, où je vais présider l'Assemblée plénière de la CENI pendant toute une semaine.
Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Barack Obama estime vital pour les Irakiens de s'unir face aux extrémistes islamistes qui menacent de s'emparer du nord et de l'ouest de leur pays. S'adressant hier à la presse, M. Obama a déclaré que son administration croit que le gouvernement en formation à Bagdad doit unir rapidement toutes les communautés de l'Irak.
Le président a exhorté tous ceux qui œuvrent à la formation de ce gouvernement à le faire pacifiquement et à tendre vers l'élimination de la menace posée par les militants de l'État islamiste qui se sont heurtés à très peu de résistance en s'emparant d'une bonne partie de l'Irak.
Le président Obama a parlé aussi des récentes frappes aériennes américaines en soutien aux combattants kurdes et aux civils réfugiés dans le nord de l'Irak. Selon lui, l'aviation américaine reste prête pour des raids contre les extrémistes qui cherchent à créer un califat sur les vastes régions sous leur contrôle.
C'est le parlementaire irakien Haïdar al-Abadi qui a été chargé de former un nouveau gouvernement à Bagdad. Mais le premier ministre Nouri al-Maliki refuse de partir après 8 ans de règne, Jacques Aristide.
C'est le président irakien Fouad Massoum qui a désigné Haïdar al-Abadi nouveau chef du gouvernement après qu'il a été choisi par l'Alliance nationale, le bloc parlementaire chiite, comme son candidat à ce poste à la place du sortant Nouri al-Maliki. Lors d'une conversation téléphonique, le vice-président américain a exprimé le soutien de Washington à M. Abadi, étape importante d'après Joe Biden, en vue de la mise en place d'un gouvernement plus inclusif. La nomination a également été saluée par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Quant à M. Maliki, il est apparu à la télévision avec les membres de son bloc politique. Ils ont rejeté la nomination de M. Abadi, affirmant que leur choix pour le poste de Premier ministre demeurait M. Maliki. M. Abadi a 30 jours pour former un gouvernement. Il s'est dit confiant que le pays allait finalement pouvoir vaincre les insurgés de l'État islamique qui cherchent à instaurer un califat islamique à travers les vastes territoires qu'ils ont conquis.
Le président Barack Obama a fait savoir au président ukrainien Petro Poroshenko que toute intervention russe en Ukraine sans l'autorisation de Kiev serait une violation du droit international. Les deux présidents ont discuté de la question au cours d'une conversation téléphonique hier. Jean-Roger Bion.
Il ressort de l'entretien entre les deux hommes d'État, selon le site web de M. Poroshenko, que toute mission humanitaire sera uniquement menée sous l'égide du Comité international de la Croix-Rouge, avec la participation de l'Union européenne, la Russie, l'Allemagne et les autres partenaires. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé dans un entretien téléphonique avec le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, que la partie russe s'apprêtait à envoyer en Ukraine un convoi humanitaire en coopération avec la Croix-Rouge. Mais le gouvernement ukrainien a prévenu que la Russie pouvait tout au plus participer à une opération humanitaire internationale destinée a priori à la seule ville de Louhansk sous le contrôle étroit de Kiev. L'Occident accuse la Russie d'alimenter en armes les rebelles, ce que Moscou dément. Le secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, dit n'avoir observé aucun signe de retrait des forces russes de la frontière et qu'il y a une forte probabilité pour Moscou de mener une intervention militaire dans l'est de l'Ukraine.
Voilà pour le journal. Merci à Anne Albertson, Washington, la voix de l'Amérique. Fausse alerte au Bénin s'agissant des cas suspects du virus Ebola enregistrés la semaine dernière à Porto-Novo, la capitale, et à Tanguieta, dans le nord du pays. Les prélèvements effectués sur les patients et envoyés à Lagos, au Nigeria, n'ont pas confirmé la présence du virus Ebola dans leur organisme. C'est la ministre béninoise de la Santé qui l'a annoncé hier après-midi devant la presse nationale et internationale en présence du représentant résident de l'OMS au Bénin, de Cotonou, Peggy Ludovic Dagba.
Le virus Ebola, tant redouté, n'a pas encore élu domicile en République du Bénin. Telle était la substance de la déclaration de la ministre béninoise de la Santé ce lundi après-midi devant la presse nationale et internationale après avoir reçu les résultats des tests des prélèvements effectués sur les cas suspects enregistrés la semaine écoulée à Coco Kenegazar. C'est voulu rassurante.
Nous avons tenu à faire cette conférence de presse pour rassurer non seulement les Béninois mais toute la communauté internationale. Et cela en présence du représentant de l'Organisation mondiale de la santé près le Bénin. Effectivement, depuis la semaine dernière, nous avons eu des suspicions de cas de la maladie à virus Ebola. Et conformément à la réglementation sanitaire internationale, nous avons procédé à l'isolement de ces cas. Nous avons fait les prélèvements qu'il faut, que nous avons adressés au laboratoire agréé par l'Organisation mondiale de la santé. Au jour d'aujourd'hui, 11 août 2014, les prélèvements suspects qui ont été envoyés à un laboratoire accrédité à Lagos sont revenus négatifs. Ce qui veut dire qu'au Bénin, les cas suspects n'ont pas été confirmés. Nous n'avons donc pas, à cet instant où je vous parle, de malades à Ebola, à cet instant où je vous parle.
Présent à la rencontre, le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin a confirmé l'information avant d'inviter les gouvernants à ne pas recourir à la fermeture des frontières comme solution pour lutter contre le virus.
Au stade où nous parlons actuellement, l'Organisation mondiale de la santé qui donne des recommandations dans la gestion des épidémies de ce type, pour le moment, ne recommande pas les fermetures de frontières. Parce qu'on sait que les fermetures de frontières ne donnent pas toujours les résultats qui sont escomptés en termes d'arrêt de la transmission de la maladie, mais que les fermetures de frontières peuvent avoir ou vont avoir un impact économique très important. Pour le moment, si on veut arrêter la transmission, il faut agir à la source. Voilà pourquoi on prend des mesures très importantes.
C'est un ouf de soulagement, a dit la ministre de la Santé, mais la veille doit être renforcée à travers l'observance stricte des règles de prévention, a-t-elle recommandé. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour la Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, l'Afrique peut-elle stopper le tueur Ebola ? Les malades africains pourront-ils accéder aux traitements expérimentaux testés sur des patients occidentaux ? Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Démolition à Kasumbalesa, dans le Katanga, des maisons construites le long de la zone neutre entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Reportage de notre correspondant sur place, Narval Mabila.
Il y a de cela plusieurs années que plus de 200 maisons ont envahi la zone interdite entre les deux pays, le Congo démocratique et la Zambie. Après plusieurs avertissements des autorités congolaises, la force de la loi vient de rappeler à l'ordre les envahisseurs par la machine des démolitions qui est passée sur plus de 400 maisons dans une distance de 5 km et sur une largeur de 200 mètres. C'est la plainte du gouvernement zambien qui a poussé les autorités congolaises à mener cette opération de démolition. Eli Mbayo, conservateur des titres, nous explique les contours.
Il y a eu un certain moment que l'État a constaté malheureusement que la zone neutre a été envahie par les habitations. Lors d'une réunion quelconque internationale, on avait relevé ça, on avait accusé la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo avait créé des commissions pour gérer cette situation. Et la décision du gouvernement était qu'on devait dégager la zone neutre. Une certaine procédure a été retenue par le gouvernement provincial, notamment la sensibilisation et créer un lotissement pour résorber les gens qui devaient être déplacés. La décision a été mise en application. Vous savez, une séparation est toujours douloureuse, mais ils ont été sensibilisés. Ils ont été à Lubumbashi voir le ministre. Ils ont été partout. On avait déjà expliqué toute la situation et la procédure qui devait se passer. Je suppose que c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de heurts.
Ils ont envahi, ils ont été avertis, ils ont été témoins de la destruction de leur maison. Aujourd'hui, la zone neutre n'est plus qu'un champ de ruines, où il y a de pleurs et des grincements des dents des anciens occupants en colère qui dorment à la belle étoile.
Parle de la sorte. Ça, c'est la destruction méchante.
Moi, l'État devait tout d'abord signaler les gens. Ce qui s'est fait de l'autre côté des Bilanga, ça a été bien. Ça a été bien. Il y a des pancartes, on a bien avisé. On va détruire à partir d'ici jusqu'ici. Maintenant, ici, il n'y a absolument rien. Les gens viennent directement, ils commencent à détruire. Ce n'est pas bien,
monsieur. C'est le hasard. Maintenant,
depuis hier, beaucoup de gens, ils ont passé nuit en dehors comme ça, toujours avec une grande famille, des enfants et autres. Ça, c'est la manière de tuer les gens, ce n'est pas mieux.
Dans cette opération de démolition, le gouvernement a été assisté par les ONG de droits de l'homme. Maître Patrick Mukendi nous donne son appréciation.
Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de blessés. C'était ça l'objectif, que les gens puissent partir sans incident majeur. Nous avons sensibilisé effectivement, nous avons même recensé. J'ai des listes de personnes recensées que j'ai remis au niveau des différents services. C'est au-delà de 453, parce qu'il y avait ceux-là qui avaient résisté, qui n'ont pas voulu suivre le message.
En coulisses, certains habitants parlent d'injustice ethnique et tribale, d'autres d'irrégularité. Mais dans l'ensemble, l'opération est appréciée. Kasumbalesa, Narval Mabila, pour la Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
S'achemine-t-on vers un apaisement sur la scène politique en Irak? Nouri al-Maliki, le Premier ministre, a été remplacé hier par Haïdar al-Abadi, qui a assuré, lors d'une conversation téléphonique avec le vice-président américain Joe Biden, qu'il avait l'intention de former rapidement un gouvernement ouvert. Pour une analyse, Nicolas Pineau a joint Peter Harling, chercheur sur le Moyen-Orient, pour International Crisis Group.
Si une décision a été prise, elle est endossée par deux acteurs majeurs que sont l'Iran et les États-Unis. Les discussions étaient en cours depuis plusieurs jours. Et je crois qu'il s'agit du choix du camp chiite au sein de la scène politique irakienne. Donc un certain consensus existe déjà, je crois, autour de cette figure parmi des acteurs clés. Et je crois que Nouri al-Maliki, même s'il entend s'accrocher au pouvoir, on n'a plus du tout les moyens aujourd'hui.
Quel est le profil d'Haïdar al-Abadi?
C'est quelqu'un qui a été ministre. Il appartient au même parti que le Premier ministre actuel, le parti Dawa. Il a été ministre en 2003-2004. C'est pas quelqu'un qu'on connaît bien. Ce qui compte vraiment, c'est le type de politique qu'il va poursuivre. Je pense qu'il faut éviter de personnaliser les enjeux en Irak. Nouri al-Maliki est très représentatif d'une culture politique qui est répandue au sein de l'ensemble de la classe politique irakienne. Ce n'est pas un cas d'exception. Si son successeur se comporte de la même façon que lui, on court au désastre. Donc tout dépend vraiment du style de gouvernance et de la nature du système politique tel qu'il doit être négocié dans les semaines qui viennent.
Vous l'avez dit, ce qui est intéressant, c'est qu'États-Unis et Iran travaillent de concert dans cette crise irakienne.
Oui, pas pour les mêmes raisons, parce que l'Iran se considère comme sorte de grand frère, un voisin qui a un droit à exercer une influence dominante sur l'Irak et qui aussi veut se prémunir d'un voisin irakien qui a représenté une menace par le passé. Hein. L'Iran a été engagé dans une guerre effroyable avec l'Irak dans les années 80. Donc il s'agit de neutraliser l'Irak, de conserver ce suffisamment faible, mais aussi suffisamment fonctionnel pour que ce soit un voisin acceptable. Du côté des États-Unis, l'idée, c'est vraiment de s'engager le moins possible, d'en faire le moins possible. Ils veulent mettre l'Irak derrière eux. Et ça, ça implique effectivement de collaborer avec la puissance dans le voisinage qui exerce le plus d'influence à Bagdad.
C'était Peter Harling d'International Crisis Group, joint à Beyrouth. Côte d'Ivoire, la déforestation de la forêt vierge ivoirienne inquiète les dirigeants, les organisations de la société civile et les acteurs chargés de la préservation de cette forêt. À la faveur de la dédicace d'un ouvrage « Destruction des forêts en Côte d'Ivoire », accusé levez-vous, la situation de cette richesse a été mise en relief. Situation actuelle de la forêt ivoirienne et les perspectives avec Germaine Ri, notre correspondant à Abidjan.
De 16 millions d'hectares de forêt en 1960, la Côte d'Ivoire ne dispose que 2 millions d'hectares aujourd'hui. Cette évaluation effraie les responsables du secteur. Kwame Pierre est responsable d'une organisation non gouvernementale chargée de la lutte contre la désertification.
C'est un désastre. Le Sahel est dangereusement en train de s'approcher de la Côte d'Ivoire. Même les forêts classées et les réserves ne sont pas épargnées par ce phénomène de destruction massive. Alors que nous étions en 1960 un pays couvert par une grande surface de forêt.
L'ancien directeur général de la Société de développement des forêts en Côte d'Ivoire, Sodefort, estime que la destruction du patrimoine forestier a été trop rapide. L'ancien Gwese Aïdara.
La vitesse avec laquelle la couverture forestière ivoirienne disparaît sous nos yeux nous interpelle.
L'auteur du livre « Destruction des forêts en Côte d'Ivoire », accusé Levez-vous, affirme que l'arbre dans la vie de l'être humain est essentiel. Georges Yaoukofi.
Détruire la forêt, c'est se détruire, se tuer. Les arbres ont aussi droit à la vie, respectons-les. Aidons-les à survivre pour qu'ils nous aident à vivre. Ayons pitié de peu de forêts que Dieu nous a donné gratuitement, ayant pitié de nous-mêmes et de l'avenir de nos enfants.
Pour le directeur du cabinet du ministre ivoirien des Eaux et Forêts, il importe de situer les responsabilités de ce dégât avant le démarrage d'une autre opération.
Convient-il de situer les responsabilités dans le désastre écologique que notre pays connaît avant de passer à la reconstitution pour ne pas perpétuer les comportements répréhensibles, les erreurs que nous ont conduits là où nous sommes.
La situation forestière dans le pays est grave, souligne Georges Yaoukofi. C'est pourquoi il suggère que des solutions d'envergure soient prises.
La Côte d'Ivoire, plus qu'urgent, a besoin d'un plan Marshall pour la forêt ivoirienne.
L'une des solutions, selon Mme Adrienne Sundele de la Fondation Sundele Kona, est le reboisement.
Il faudrait chercher à mobiliser des moyens pour aider à faire un reboisement massif. Le monde est en danger. Il faut mettre la planète en sécurité.
Kwame Pierre, qui préconise la sensibilisation des populations souhaitent que des espaces illégalement occupés soient libérés.
Nous avons mené des activités, des actions, j'allais dire de lobbying et de plaidoyer, relativement donc à la forêt du Mont Péco, occupée par des bandits. Je pense que c'est le domaine public. L'État doit prendre ses responsabilités pour dégager des personnes qui occupent de façon abusive le domaine public.
Germain Dri, Abidjan, la voix de l'Amérique.
Et maintenant, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
En football, retour attendu ce mardi à Kinshasa de l'AS Vita Club.
Oui, le club quinois retrouve les demi-finales de la Ligue des Champions, une première depuis la nouvelle formule de 1997. Les joueurs de Kinshasa ont quitté hier le Caire et devraient arriver ce mardi à Kinshasa après un arrêt à Addis Abeba. Je vous rappelle que ce week-end, les Dauphins Noirs sont allés remporter un précieux succès à Alexandrie, 1-0 contre le Zamalek. Écoutez Florent Ibengue, l'entraîneur des Congolais.
On est très satisfaits, on est très heureux même. Quand on a commencé la compétition, on n'était pas favoris du tout. On est arrivé sur la pointe des pieds et puis on a développé notre jeu petit à petit. On a remporté des jeux difficile. Rien nous a été facile, donc on a dû fuser dans nos retranchements pour passer tous les tours, avec de la difficulté, avec du courage, mais aussi de temps en temps avec du talent. Donc on est très heureux d'arriver à ce stade de la compétition que le club n'a pas attendu depuis très longtemps. Et ce qui nous fait plaisir aussi, en plus, parce qu'on est très satisfait. Mais le fait qu'on se retrouve là avec Mazembe aussi, c'est un réel plaisir pour tout le pays. Donc, ça fait doublement plaisir.
Florent Ibengue, l'entraîneur des Congolais.
Football toujours, le meilleur buteur de l'histoire en Coupe du Monde prend sa retraite internationale.
Oui, l'attaquant de l'équipe d'Allemagne, Miroslav Klose, a inscrit 16 buts lors des différentes phases finales de Coupe du Monde. Le joueur de la Lazio de Rome explique avoir réalisé un rêve d'enfant avec le titre au Brésil et se réjouit d'avoir pu vivre des moments inoubliables avec l'équipe nationale.
La Super Coupe d'Europe ce soir à Cardiff.
À suivre, James Rodriguez, révélation du Mondial 2014, qui pourrait faire ses grands débuts ce soir avec le Real de Madrid au Pays de Galles contre le FC Séville pour cette Super Coupe d'Europe.
Athlétisme, championnat d'Afrique à Marrakech.
Déception pour Muriel Aouré. L'Ivoirienne est arrivée hier deuxième de la finale du 100 mètres dames, derrière la Nigériane Blessing Okagbare. Chez les femmes, la Burkinabé Laetitia Bambara, vainqueur dimanche du concours du lancer du marteau, a reçu sa médaille hier. Écoutez sa réaction.
Ah oui, je suis super contente d'avoir remporté cette médaille. Je me suis battue jusqu'au bout et je suis très fière d'avoir remporté la médaille d'or pour mon pays. Le concours était très long, on était 15, donc fallait gérer ce temps-là, d'essayer de rester concentrée jusqu'au bout. Donc entre chaque jet, rester assise, m'hydrater. Et donc je pense que c'est ce qui a payé pour garder l'énergie pour les jets suivants.
C'est vrai qu'on parle beaucoup de foot, évidemment, dans votre pays, le Burkina Faso. Vous avez envie que ce soit aussi un message pour les petites disciplines, entre guillemets ?
Bien sûr, c'est vrai que l'athlétisme n'est pas le sport numéro un au Burkina. Donc, grâce à ma médaille, j'espère promouvoir l'athlétisme et notamment le lancer de marteau, qui est une discipline pas ou peu connue au Burkina. Donc, cette médaille, je pense, va faire du bien pour l'athlétisme.
Laetitia Bambara, lanceuse de marteau burkinabé que j'ai joint hier à Marrakech.
À présent, la page musicale de Roger Muntu. Salut Roger.
Bonjour Idrissa. À l'aube des années 70, naissait la world music avec le titre Soul Makossa. Son auteur, Manu Dibango, est un personnage clé de la fin du XXe siècle. Manu est au moins autant un journaliste, anthropologue ou philosophe que musicien. Sans lui, la world aurait sans doute fini par exister, mais au moins 50 ans plus tard. On l'écoute ce matin dans Petite Fleur.
De Manu Dibango est issu de l'ethnie Yabassi, sa mère est Douala. Cette différence est importante dans un pays qui vit, me dites-vous Roger, selon les rites ancestraux.
Une différence très importante, Idrissa. Chez lui, le jeune Manu parle essentiellement le Douala. Son père est fonctionnaire. Sa rigueur morale est un exemple pour son fils. Sa religion n'y est sans doute pas étrangère. En effet, les Dibango sont protestants. Le soir, Manu va au temple et sa mère s'occupe de la chorale.
Manu Dibango, petite fleur. Merci Roger.
De rien Idrissa, nous saluons nos fidèles auditeurs à N'Djamena au Tchad.
Retrouvez Roger Muntu dans le RM Show à 20h temps universel.
La vie par moments me trahit. Tu restes mon bonheur.
Aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique en direct de Washington. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.